C'est délicat parce que jusque-là, moi, je pense que j'avais jamais rien lu de négatif à votre égard. Il y a eu un seul article, celui de Nathalie Petrovski. On était au début du mois d'août.
Elle était toute seule de sa gang.
Ben, ouais. Elle vous a égratigné un peu.
Pas mal, je trouve. Parce qu'elle aurait pu faire un débat très intéressant sur les artistes qui font de la pub. Puis ça aurait été une réflexion très, très intéressante, je trouve. Mais j'ai plus trouvé que ça tenait de la vendetta. Dans mon cas, parce qu'elle me reprochait de beaucoup travailler. Là, ça m'a fait drôle parce que j'ai dit, comment une femme peut reprocher à une femme d'avoir du succès et de beaucoup travailler? Ça m'a beaucoup intriguée. Puis son article était plus comme un ton, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais revanchard, au lieu de porter sur une réflexion.
On reçoit Nathalie Petrovski en studio et la personne qu'on vient d'entendre, c'est Guylaine Tremblay. Qui a l'émission Dans les médias à Télé-Québec. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir.
Te barbouillais parce que tu l'as critiquée dans une chronique, Mme Tremblay, comédienne très aimée, parce qu'elle a porté, elle a été la porte-parole de cette agence de voyage, Cinorama. Quand tu as vu ça, là,
oui.
Ça t'a-tu fait mal?
Non, ça m'a pas fait mal. J'étais vraiment pas contente. J'étais pas blessée. J'étais enragée. Je trouvais ça épouvantable qu'une actrice, qu'une vedette tellement aimée du public tienne des propos épouvantables, des propos dignes. D'ailleurs, je pense que c'est ça que j'ai écrit de Donald Trump. Parce que dans le fond, là, puis en plus, vous avez coupé quand elle dit, dans le fond, c'était le mois d'août, fallait qu'elle varge sur quelqu'un. Comme si moi, pendant le mois d'août, j'avais rien d'autre à faire que de varger sur Guylaine Tremblay. Puisque ce que j'aimais pas non plus, c'est que ça faisait deux mois que Francis Veil à la presse faisait des enquêtes sur Cinorama, que l'autorité des marchés financiers faisait enquête. Et elle, et c'est ça que j'ai reproché. Le gros reproche que je lui faisais, elle était venue aux échangistes. Et pendant qu'il y avait l'enquête, pendant qu'il y avait l'autorité des marchés financiers, puis elle avait déclaré à la télé, n'ayez pas peur, faites leur confiance, achetez encore vos forfaits pour la Chine. Et ça, je trouvais ça impardonnable. Donc, c'est pas parce que c'était le mois d'août qu'il fallait que je varge.
Je pense que Nathalie, t'as jamais eu besoin d'une raison pour égratigner, ni d'une saison. Oui. On est avec Catherine Beauchamp. Catherine, t'as lu la biographie de Nathalie comme moi?
La critique n'a jamais tué personne.
Ce sont des mémoires, pardon.
Des mémoires, c'est pas une biographie, c'est des mémoires.
Mais c'est si bien choisi comme titre, La critique n'a jamais tué personne, parce que t'en as critiqué en titi des gens.
Puis on s'entend que quand je dis la critique, c'est pas moi la critique. Oui, c'est moi la critique, mais c'est la critique en général n'a jamais tué personne. Critiquer quelqu'un, se faire critiquer, c'est pas la fin du monde. Voilà,
non, c'est pas la fin du monde, mais c'est jamais le fun quand c'est nous qui sommes critiqués. Tu le vois, parce que là, Guylaine Tremblay te critique, puis moi, je te le dis, là-dessus, dans ce débat-là, moi, je suis de ton côté. Je trouve que Mme Tremblay est restée collée sur Cinorama très longtemps.
Très longtemps.
OK, bon, parfait. Sauf que quand c'est nous qui recevons la bordée de marde, là, pas très le fun.
Ben ça dépend. Non, moi, je suis habituée à ce qu'on critique mes chroniques. Là où ça peut-être fait plus mal, et la plupart du temps, je lis ça, puis je dis d'abord, ils ont le droit à leur droit de réplique. Dans ce cas-là, j'aimais pas ça parce que je la trouvais terriblement malhonnête. Non, ce qui fait mal, c'est quand tu écris un livre, quand tu sors un livre comme mes mémoires, quand tu scénarises un film. Bon, et là, et la critique dit, ben c'est pas si bon que ça. Et je veux dire, en même temps, qui suis-je pour contester ça? Je suis très mal placée, donc j'accepte ça. Ça fait partie de la game.
Oui, tu fais référence à Jerry, que tu avais scénarisé, qui avait été quand même...
Non, Jerry avait été...
Le film sur Jerry Boulet.
Oui, sur Jerry, c'est moi qui ai scénarisé, mais il y a eu une très mauvaise critique. C'était un tweet du maire Coderre qui disait, c'est un très bon film, dommage que le scénario soit mauvais. Là, tu te dis, ben voyons donc. Alors, le film est bon.
C'est à l'époque où il était maire ou avant qu'il soit maire?
Juste avant qu'il soit maire.
Quand il était critique de tout, là.
Exactement, quand il était critique de hockey, de politique et de cinéma.
Mais pourtant, tu as critiqué beaucoup de gens et tu l'expliques très bien dans ton livre. Tu t'es fait tasser. Tu t'es fait tasser souvent parce que tu as critiqué des artistes. Tu es allé toucher l'intouchable. Tu sais, je pense à des artistes comme Diane Justère, Diane Dufresne,
Ginette Reno.
On t'a écarté du.
C'est-à-dire qu'il y a eu des prix à payer dans le cas du Devoir. Par exemple, quand j'ai travaillé au Devoir, à un moment donné, Québec Spec, Guy Latraverse, il y en avait marre de mes critiques. Alors, ils ont coupé la publicité au Devoir, toutes les annonces qui passaient. Puis à l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Donc, il y a eu toutes sortes de trucs comme ça. Évidemment, René Angélil m'a mis sur sa blacklist.
Et oui, donc, ça, j'étais c'est pas célèbre. Oui.
Ça, c'est célèbre. J'étais. Alors, mais j'ai pas, en même temps, toutes les entreprises de presse où j'ai travaillé ont continué à m'appuyer et à me laisser continuer. Alors, j'ai pas été écartée. J'ai des fois payé le prix, mais pas tant que ça, finalement, puisque j'ai quand même travaillé dans 3 journaux. Et j'ai
pendant 40
été...
ans.
Ouais, exactement.
Bon, c'est une pas pire carrière. C'est pas pire. Okay. Mais tout de même, tu dis dans tes mémoires, tout ce que l'on semble avoir retenu de moi, ce sont les critiques souvent dures.
Oui.
Okay? Ça a été quoi la chose la plus dure, la plus... Pas la plus vache, mais disons la plus... c'est quoi la chose la plus vache que tu as écrite sur quelqu'un?
Mais mon Dieu, Patrick, si je te disais, si je te posais la question, toi aussi, t'en as écrit beaucoup de chroniques. Mais tu sais, des fois, on oublie un peu ce qu'on a écrit.
Ben, oui.
Alors, il y en a eu beaucoup des critiques dures. Tu sais, j'en ai lu justement une que j'avais écrite sur le livre de Paul Marchand, le film qui va bientôt. Et en fait, la fin était épouvantable. Je lisais ça, je disais, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai écrit ça. Parce que je disais, en fait, dans ce livre-là, il se délectait de la mort. Il arrêtait pas de parler de la mort. Et j'étais tellement, j'en pouvais plus qu'à la fin, j'ai dit, ben, écoute, tire-toi une balle dans la tête parce que t'es déjà mort. Chose qu'il a faite, en fait. Il s'est pas tiré une balle dans la tête, mais effectivement, il s'est suicidé. Mais tu sais, je le sais pas, là. Tu sais, il y a eu aussi beaucoup de célébrations, beaucoup d'artistes que j'ai encensés, que j'ai aimés, que j'ai encouragés, que, alors, tu sais, sur 40 ans, et évidemment, mais ma marque de commerce, c'est la méchante. Mais bon, c'est correct, ça va. Je peux vivre
bien
avec ça.
Ben,
je suis encore en vie.
Non, mais
ça a jamais pincé à quelque part?
Non, ben, pas ça. C'est pas ça qui pince. Non, je pense pas. C'est pas ça. C'est d'autres choses. Tu sais, à travers ça, j'ai quand même eu une vie heureuse. J'ai vu beaucoup de spectacles. J'ai adoré écrire. J'ai des amis, hein. Je sais que ça a l'air, tu
vois, t'as
des
amis. On se forme une tribu,
oui,
là.
C'est ben ça, oui. J'ai des amis, j'ai une famille. Enfin, je veux dire, non, ça fait partie du métier, je pense.
OK, tu racontes, là, toute la saga de ton accréditation aux Oscars en 1987 pour Jésus de Montréal, qui est en nomination pour le meilleur film.
En fait, non, pour le déclin. C'est le déclin.
C'est le déclin, oui. OK, Jésus de Montréal, c'est 2 ans après.
C'est vrai.
OK. Et t'écris, parce que ça se fait un peu sur la gueule. Tu dis, tu sais, il n'y a pas un bataillon d'agents de sécurité. Et tu dis, à l'époque, les choses étaient moins compliquées. Et je me demandais, qu'est-ce qui a le plus changé dans le métier entre le moment où tu as commencé puis tu as fini?
Ben c'est ça, c'est comme si des murs s'étaient érigés partout dans ce métier-là, d'attaché de presse, de garde de sécurité, de convoi, tu sais, je veux dire, aux Oscars, c'est rendu, là, faut que t'arrives avec ton passeport, tu passes comme à l'aéroport, puis 2 fois, sinon... Puis je veux dire, alors que là, tu faisais la file derrière le bâtiment, puis tu te faisais engueuler par une attachée de presse, puis finalement, elle te laissait passer. Je veux dire, tu peux plus concevoir, c'est devenu un énorme appareil sécuritaire, d'abord.
C'est devenu plus compliqué dans la société puis dans le métier.
Mais même, j'ajouterais, moi, je me suis fait mettre à la porte du TIFF, du Festival du film de Toronto, parce que j'ai désobéi aux ordres de l'armée. T'as vu le Festival de Cannes changer aussi?
Oui, c'est ça. Mais le Festival de Cannes, j'ai arrêté assez vite d'y aller parce que j'haïssais ça.
Nathalie, quand je pense à toi, je pense à un personnage. Okay?
Oui.
Parce que tu es un personnage... Et moi, j'ai vécu, là, je suis rentré dans les journaux à Montréal en 99, il y avait encore des personnages.
Ouais.
Il y en a de moins en moins, mais c'est le cas dans la société aussi. Tout est plus aseptisé, non?
Ben, c'est-à-dire, je faisais beaucoup de bruit hein, quand j'étais dans la salle de rédaction
de la presse.
Oui, c'est
correct, on t'entendait rire, on t'entendait
crier.
Tout
le monde me dit, mon Dieu, c'est calme tout à coup. oui, j'ai une personnalité, très expressive, c'est ça, extravertie. En même temps, d'être quelqu'un de timide, je sais que personne ne me croit, mais en tout cas, c'est vrai. Alors, je sais pas, il y a encore des personnages fantasques un peu partout, mais peut-être c'est moins... ces temps-ci, les journaux traversent pas des périodes très heureuses, alors tu sais, la bonne humeur et tout ça, c'est peut-être moins... Pas que j'étais toujours de bonne humeur, habituellement j'étais de mauvaise humeur.
Oui, mais c'est une mauvaise humeur, de bonne aloi.
C'était du cinéma, et puis je faisais un peu de cinéma pour animer
c'est ça
les
que je veux dire par personnage.
Oui,
il y en a de moins en moins dans la société des personnages.
Ouais. Ben je sais pas.
On est plus plate, non?
Ben, je sais plus. Ben là, moi, je suis plus dans une salle de rédaction.
Je te parle pas de la salle de rédaction, je te parle en général.
En général.
En politique, dans les médias, dans le spectacle. Toi, t'es devenu un peu corporate.
Ben écoute, je sais pas, il y a encore des Denis Gagnon, des il y en a des beaux fous encore. Mmh, mmh. Peut-être moins qu'avant, peut-être il y a moins de LSD qui circule ou je sais pas là.
Est-ce que le personnage à un moment donné a pu devenir trop gros ou est-ce que la Nathalie à la maison est si différente du personnage?
Mais non, mais pas si. Je veux dire, j'ai quand même aussi fait ma job. J'ai quand même été journaliste, pas juste un personnage. Alors, non, je sais pas. C'est vrai que c'est ça. Je sais, je disais à Cassivi, c'est vrai qu'il y a Petrovski. Petrovski, c'est le personnage public, le personnage dans la salle de rédaction, le personnage. Et Nathalie, ben, c'est autre chose.
C'est
ben,
quoi?
Ben, je sais pas. C'est la mère de famille, c'est la blonde. L'amante, la blonde, la fille d'eux aussi. J'ai encore mes deux parents, hein.
Ah, c'est vrai? Ouais. Chanceuse.
Ben oui.
Une grande chance.
À l'âge que j'ai vraiment quelque chose.
OK, 18h15, on va poursuivre avec Nathalie Petrovski après la pause. Elle est ici pour nous parler de ses mémoires. Ouais. La critique n'a jamais tué personne et c'est très divertissant. De retour en studio avec un monstre sacré des médias québécois, Nathalie Petrovski, qui vient de publier ses mémoires. La critique n'a jamais tué personne. Et Nathalie, là-dedans, on apprend qu'un de tes regrets, c'est de ne pas avoir eu plus d'enfants. La carrière a comme fait en sorte que tu t'es limité à un enfant et comme tu dis, c'est à refaire. Je serais journaliste et mère de famille nombreuse.
Ouais, c'est vrai. Je fais partie de la génération, en fait. Je lisais dans les journaux récemment, il y a à peu près une semaine ou deux, Louise Roy, qui a été donc PDG
de la STM,
qui a travaillé à Air France, qui a eu des gros jobs et tout ça. Et elle disait dans cette entrevue, je pense dans la presse d'ailleurs, qu'elle avait vraiment fait le sacrifice de sa famille. Moi, j'ai pas fait ce sacrifice-là, mais elle était vraiment de cette génération-là. C'est pas tout à fait ma génération, mais ces femmes-là, il y a beaucoup de ces femmes-là qui ont eu des carrières, qui n'ont pas eu justement d'enfants, pas de vie de famille. Moi, je viens après et moi, quand je suis rentrée à la presse, ça faisait 8 ans que je voulais rentrer à la presse, ça ne marchait jamais. Finalement, il y a une porte qui s'ouvre et non seulement la porte s'ouvre, moi, je voulais tellement rentrer à la presse que je leur avais dit, écoutez, moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Je peux faire les chiens écrasés. Je peux même laver le plancher si vous voulez. Je veux travailler à la presse à tout prix. Et là, ils me disent, OK, d'accord, attends, on y repense. Et ils m'arrivent puis ils disent, columniste, est-ce que ça t'intéresse?
Chroniqueuse.
Chroniqueuse. Mmh. Là, j'étais comme je me pinçais, j'en revenais pas. C'était, mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Je venais de gagner le grelot. Ouais. Alors, donc, je rentre à la presse, je commence. Puis, tu sais, c'est quand même, tu sais ce que c'est. Là, tu deviens chroniqueur à temps plein. Il faut que tu te construises et tout ça. Et je pense que c'est au bout de 6 mois, je suis tombée enceinte. Et là, ça a été la panique. Et je me suis dit...
Tu ne voyais pas concilier l'effort à faire pour t'imposer...
C'est-à-dire, je me disais, je ne peux pas faire ça à l'entreprise. Puis on s'entend que c'est pas l'entreprise. L'entreprise n'était pas au courant. Mais moi, je me disais, ça veut dire que je vais prendre un congé de maternité. Ça veut dire que je vais partir pendant 1 an. Je viens de rentrer. Eux autres, ils seront pas contents. Je peux pas faire ça. Et donc, j'ai donc interrompu ma grossesse. Et après coup, j'ai vu des collègues, alors d'une autre génération, tu sais, c'est comme
plus jeunes
que moi. Là, elles arrivaient à avoir la job, tomber enceinte une première fois, tombe enceinte une deuxième fois, tombe enceinte une troisième fois. Et je me disais, mais mon Dieu, sans culpabilité, sans complexe, ça allait de soi. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Et je me suis trouvée ben épaisse. Mais en même temps, je me disais,
C'était l'époque aussi.
Mais je dis ça comme ça, est-ce que tu as eu la conversation ou tu as juste déduit que...
J'ai même pas eu la conversation. Je voulais pas faire ça. Je me disais, je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait enfin engagée, qu'il m'ait donné une chronique, je peux pas leur faire ça. Puis c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les salles de rédaction, là, quand une fille tombait enceinte, les boss disaient, oh non, pas encore un autre congé de maternité. Il y avait, puis pas juste à la presse, au journal Voir, on m'a raconté des histoires, partout un peu, il y avait cette espèce, ça a complètement changé depuis, je pense. Mais à l'époque, il y avait ça. T'sais, une fille qui tombait enceinte dans la salle de rédaction, c'était pas le fun. Fallait lui trouver un remplaçant, etc.
Mais là, tu publies tes mémoires. Qui dit mémoire dit retraite. Mais dans ton cas, t'es pas en retraite. T'as juste lâché la presse.
Exactement. J'ai quitté la presse. C'est tout.
Aimes-tu ta vie post la presse?
Ben oui. Je m'ennuie évidemment des camarades et tout ça, mais en même temps, il n'y a plus cette pression de, d'écrire, de trouver un sujet, de trouver un angle et tout ça. Alors, j'avoue que ça, je m'en ennuie pas du tout. Puis, écoute, je fais de la radio, je fais de la télé, j'écris un scénario de film que Denis Coderre pourra critiquer. Tu sais, je veux dire, la vie est belle.
T'as eu du fun?
J'ai eu du fun et j'ai encore du fun.
Ton gros aïe avant de carrière, ça, c'est quoi?
Mon gros aïe de carrière, mais j'en ai eu plein. Je peux pas, je veux dire, tu sais, c'est très difficile. J'ai écrit tellement de choses, j'ai vu tellement de choses, j'ai rencontré tellement de monde que c'est très difficile. Une affaire qui m'avait beaucoup touchée, j'ai rencontré François Truffaut et j'ai passé comme une heure et demie avec François Truffaut qui m'a donné un cours de cinéma. J'étais encore étudiante en cinéma et ça a été comme, j'avoue, là, ça a été comme un espace que c'était aussi quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et ça, c'était un des grands rêves, mais ça fait longtemps, ça.
Hein? Mais Nathalie, en tout cas, oui? Moi, là, j'ai adoré te côtoyer à la presse, j'ai adoré te lire et je m'ennuie de toi dans nos pages.
Bon.
Donc, alors, je te souhaite une excellente retraite. Donc,
Moi, tu as fait un portrait de moi puis tu m'as terrorisé les heures avant que j'aille te rencontrer.
Oui, mais après ça, j'ai fait un beau portrait de toi quand même.
Faut payer les employés. Fait que Catherine va lire les résultats d'un concours.
Voilà, vous allez vous inscrire au 98.5fm.ca et vous allez avoir la chance de remporter une paire de billets pour le 29e show du Refuge qui va se dérouler le 21 novembre à la Place des Arts. Marie-Mie, Bruno Pelletier, Corias, Loulou Youse, notre gagnant d'aujourd'hui est Sylvain Brouillette de Laval.
Et merci, Catherine Beauchamp. Ça a été le fun. Et ça a été le fun de finir l'émission avec Nathalie Petrovski. Le livre s'intitule « La critique n'a jamais tué personne ». Je te souhaite plusieurs ventes. Tu vas être au Salon du livre, j'imagine?
Oui, bien évidemment.
Écoute, j'espère que tes fans vont aller te voir et que ceux qui ne t'aiment pas ne vont pas arrêter de te lancer des tomates. Puis je te laisse pas partir sans me dédicacer ceci. Merci tout le monde. C'était Le Québec maintenant. Ici Patrick Lagacé. Je vous laisse au bon soin de Mario Langlois et des amateurs de sport. Bonsoir.